Seigneur, comment exprimer notre amour? Les mots nous manquent trop souvent, mais nous avons cru en ton amour. Nous avons reçu ton amour dans nos cœurs. Ô, de tout notre être, nous te glorifions. Seigneur, nous voilà à la fin de cette convention. Comment aussi t'exprimer notre reconnaissance? S'il s'est fait quelque chose au milieu de nous, c'est uniquement à cause de toi, Seigneur. Car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oh, merci, merci pour tout, Seigneur. Nos cœurs t'aiment et t'adorent. Et tu veux encore nous faire du bien pour cette dernière réunion. Tu veux encore consoler. Tu veux encore sauver. Tu veux encore guérir. Tu veux encore relever. Tu veux encore pardonner. Ô Seigneur, que ton nom est merveilleux. Jésus, le seul nom que mon cœur aime. Jésus, ton nom est comme un parfum qui se répand. Tu es le lys des vallées. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es le soleil de justice. Tu es l'ami des pécheurs. Tu es venu chercher, sauver ce qui était perdu. Tu es le bon berger des brebis. Tu es le pain de vie. Tu es la résurrection et la vie. Tu es le roi des rois. Tu es le seigneur des seigneurs. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement et la fin. Oh, comment ne pas t'adorer! Veuille bénir encore ces instants maintenant, bénir ta parole et le moment de prière encore, Seigneur Jésus. Pose ta bonne main sur nous tous. Mets ton amour encore dans nos cœurs, ton Esprit Saint qui seul libère et guérit. Merci parce que tu le fais. Nous voulons nous ouvrir à toi et te dire merci pour tout ce que tu vas faire, Seigneur. Amen. Combien nous pouvons dire merci au Seigneur pour le bien qu'il nous a fait, n'est-ce pas vrai? Combien nous pouvons être reconnaissants. Et soyons reconnaissants, mes amis. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il fait. Car si nous sommes reconnaissants pour ce qu'il fait, il fera encore davantage. La reconnaissance ouvre nos cœurs pour recevoir encore davantage de lui. Et je crois que le Seigneur a visité chaque personne ici pendant cette convention. Amen. Qui n'a pas été béni? Qui a été béni? Levez la main. Mais je crois que tout le monde a été béni. Amen. Alléluia. On a tous été bénis spirituellement. On a été aussi bénis matériellement. J'allais oublier, heureusement qu'il m'a mis ce petit mot. Remercier pour la collecte. Les frais sont largement couverts. Tous les frais sont largement couverts. Merci Seigneur. Alléluia. Que son nom soit béni. Alléluia. Et merci encore pour votre collaboration. Que le nom du Seigneur soit béni. J'aimerais lire juste trois versets. Vous laissez comme ces trois versets devant vous, dans votre cœur, avant de partir. Et bien les méditer aussi, les garder en vous. Romains chapitre 8,
versets 37, 38 et 39, ce sont des versets bien connus. Mais nous avons toujours besoin de les entendre, de les dire, de les garder dans notre cœur. Romains 8, 37, 38 et 39. Mais dans, on va lire tous ensemble, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia! Ce sont les paroles les plus extraordinaires qui ont été écrites. Je crois que nous pouvons tous applaudir et fortement. Alléluia! L'amour de Dieu est la chose la plus extraordinaire. Car il n'y a pas de vie de victoire sans que nous soyons, vous soyez conscients que Dieu vous aime. Écoutez-moi bien. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, et ça ne s'arrête pas là. Il n'est pas dit, nous sommes plus que vainqueurs, c'est tout. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. La vie de victoire est liée à l'amour de Dieu pour nous. Laissez-moi vous dire une chose qui peut vous faire exploser cet après-midi. Quand nous savons que Dieu nous aime, quand nous sommes convaincus que Dieu nous aime, quelles que soient les circonstances, quelles que soient nos épreuves, quelles que soient les apparences, quels que soient les événements, quand nous sommes convaincus que Dieu nous aime encore et que Dieu nous aime toujours, alors nous sommes imbattables, nous sommes des vainqueurs, nous sommes irrésistibles. Alléluia! Alléluia! Pourquoi est-ce que nous flanchons de temps en temps? Écoutez bien, il y a beaucoup de raisons, bien sûr, on peut donner beaucoup de raisons, mais laissez-moi vous dire une chose. La chose qui est la racine de nos découragements, de nos défaites, c'est que lorsque les circonstances sont contre nous, la première des pensées qui nous vient à l'esprit, c'est celle-ci. Si Dieu m'aimait vraiment, si Dieu m'aimait vraiment, mais je n'aurais pas ces difficultés. Mais s'il m'aimait vraiment, eh bien, je ne passerais pas par ces épreuves difficiles. Si Dieu m'aimait vraiment, eh bien, il n'y aurait pas eu ceci et cela. Et ce sont des questions que nous nous posons, que nous n'osons pas toujours dire, mais qui sont quand même là. Et si nous acceptons cette pensée qui est un mensonge du diable, écoutez-moi bien, c'est un mensonge du diable. L'acceptation de cette pensée enlève de nos cœurs tout esprit de victoire. Il est impossible de vivre une vie chrétienne victorieuse si nous doutons tant soit peu que Dieu nous aime. Si nous doutons de cela, alors la vie victorieuse est impossible. Amen. L'apôtre dit ici, mais dans toutes ces choses, quelles sont ces choses? On aurait pu lire un peu les versets avant. Un petit peu avant, qu'est-ce qu'il est dit au verset 35? Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, voilà un mais divin. Les mais divins sont des mais libérateurs, alléluia. Mais les mais humains sont des mais qui nous rendent esclaves. Avez-vous remarqué, quand certains parlent,
« Ah oui, je sais que Dieu est avec moi, je sais quand même que Dieu m'aime,
mais. » Et dès que nous sortons ce « mais », tout le positif que nous avons dit avant ne vaut plus rien du tout. On dit que Dieu nous aime, on dit que, voyez-vous, bon, il y a celui qui est négatif, qui croit que Dieu ne l'aime pas, l'a abandonné. Alors celui-là, bien sûr, il peut voir son problème tout de suite. Mais attention, c'est plus subtil que ça. Nous, nous n'osons pas dire que Dieu ne nous aime pas, nous aime. Et alors, nous disons, oui, Dieu m'aime, je sais. Mais oui, je sais, pasteur, que vous nous racontez tout ça. Je sais. Quand même, je suis chrétien, je suis une chrétienne quand même. On a l'impression que vous parlez un païen ou une païenne, quand même. Je sais que Dieu m'aime, je sais qu'il est amour, je sais ceci, je sais beaucoup de choses. Mais alors, après avoir dit tout cela... Vous sortez, juste pour finir votre phrase, vous sortez un « mais je ne comprends pas ce qui m'arrive ». Regardez. Regardez ce « mais » que vous venez de sortir, c'est quelque chose qui vient mettre un venin dans votre esprit. Vous savez, vous n'avez pas besoin que les autres vous empoisonnent, vous pouvez vous empoisonner vous-même. Mais mais ceci, mais cela. Je sais, oui, Dieu a béni beaucoup de gens, mais moi. Les mais humains, c'est comme dans l'Ancien Testament, lorsque les espions ont souvenu, là, quand ils sont allés en Canaan, ils sont revenus faire un rapport à Moïse. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Le pays qu'on a vu est un pays extraordinaire. Le lait et le miel coulent. Il y a des raisins, des grappes de raisins, mais on a l'impression que ça fait presque la hauteur d'un homme. Jamais ils n'ont vu ça. Des choses qui sont impensables. Formidables. Le terrain, le pays que l'Éternel nous a donné, c'est un pays formidable. Alors ils ont commencé par du positif. Ils ont vanté ce que l'Éternel donnait à son peuple. Ils auraient dû s'arrêter là. Parce qu'après, tout ce qu'ils ont dit, ils ont tout gâché. Ils ont dit, le pays que l'Éternel nous a donné est bon, excellent, extraordinaire. On a vu des choses merveilleuses. Mais, voilà un mais humain qui va tout gâcher. Mais quoi? Mais quoi? Mais, on a vu des géants. On a vu des géants dans ce pays aussi. Et ces géants-là, quand on les a vus, on avait l'impression d'être comme des sauterelles devant eux. On avait l'impression comme des sauterelles. T'as vu? Tu l'as vu? Oui, le pays est bon, mais... Tu as vu celui-là? Regarde l'autre là-bas. Regarde-les en train de se balader. Mais dis donc, si on entre dans ce pays, on va se faire piétiner. On va se faire battre. Dieu a dû se tromper. Comment est-ce qu'il peut nous donner un pays comme ça? S'il n'y avait que des... que les raisins, que le lait, le miel, ça irait bien. Mais pourquoi est-ce que Dieu, il met des géants dans ce pays? Ça gâche tout, là encore. Là encore, c'est tout gâché. On voudrait bien une vie victorieuse sans combattre. Vous voyez, c'est ça le problème avec nous. On veut bien une vie victorieuse, mais sans combattre. Sans combattre. Et c'était là le problème de ces espions. Ils voulaient bien recevoir la bénédiction, mais ils n'étaient pas prêts à combattre. Et laissez-moi vous dire une chose. Dans l'œuvre de Dieu, dans notre vie spirituelle, toutes les bénédictions que Dieu vous donne se trouvent derrière un géant. La grappe de raisin
que vous enviez qui est bon, qui est bonne. Et le lait, le miel que tu as vu se trouve derrière un géant. Et si tu veux manger du bon produit de ce pays, il n'y a pas d'autre solution. Tu dois d'abord détruire le géant. Sinon, tu mourras de faim. Sinon, tu mourras de faim. C'est pourquoi, comme l'apôtre ici, nous devons pouvoir réaliser ceci, mais dans toutes ces choses, autrement dit, au milieu de ces géants qui sont là, la persécution aussi, l'angoisse, la tribulation, la faim, la nudité, le péril, l'épée, ce sont des géants qui sont là, vous ne trouvez pas? Mais au milieu de ces géants, c'est là que Dieu veut nous donner des victoires. Amen. Alléluia. Dieu veut vous utiliser pour détruire des géants. Quand vous verrez que votre foi est capable de détruire des géants, vous allez vous-même devenir un géant spirituel. Alléluia. Pourquoi Dieu laisse des géants? Pour que vous, vous puissiez devenir un géant spirituel. Alléluia! Et plus le géant est grand, plus vous deviendrez grand vous-même, spirituellement. Amen! Mais dans toutes ces choses, nous on dirait, quand on pose la question, bien souvent, quand je prêche là-dessus, et qu'on a un moment de prière, voyez-vous, vous savez ce qu'on entend après dans la prière? J'ai souvent entendu ça. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alors les gens commencent à prier. Oh Seigneur, fais que nous soyons vainqueurs. Oh Seigneur, j'espère qu'un jour je serai vainqueur. C'est une prière qui ne sera jamais exaucée parce qu'elle n'est pas biblique. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Nous serons vainqueurs? Où nous sommes vainqueurs. Moi, je ne suis pas bien fort en français, mais au moins, je sais faire la différence entre le futur et le présent. Mais il y en a qui ne font pas cette différence-là. Il y a même des professeurs qui ne font pas la différence. Il y a même des théologiens qui ne font pas cette différence. Seigneur, un jour, je serai vainqueur. La victoire que Dieu nous accorde, mes amis, elle est au milieu des géants. Alléluia! Et c'est une victoire que nous avons maintenant. As-tu déjà confessé, écoutez-moi bien, ceci est important, ce n'est pas des jeux de mots. As-tu déjà confessé que tu es vainqueur? Ou est-ce que tu confesses qu'un jour tu seras vainqueur? Ou alors est-ce que tu demandes à Dieu qu'il fasse de toi un vainqueur? Si tu demandes à Dieu de faire de toi un vainqueur, tu risques d'attendre longtemps. Tu arrives en retard parce qu'aux yeux de Dieu, Dieu a déjà fait de nous des vainqueurs. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Et pourquoi cela? Parce que nous savons que Dieu nous aime. Et quelles que soient les difficultés, quelles que soient les épreuves, écoutez-moi bien mes amis, ne doutez jamais, jamais de l'amour de Dieu pour vous. Jamais, jamais. Nous pouvons douter de certaines choses, mais nous ne devons jamais douter que Dieu nous aime. Voyez-vous ici, il est dit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours. Quand les hommes sont contre vous, c'est quelque chose qui est mal déjà. Quand l'ennemi est contre vous, ça c'est quelque chose aussi qui n'est pas bien. Mais quand vous avez l'impression que Dieu est contre vous, c'est là le test. Quand vous avez l'impression que Dieu lui-même est contre vous, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous dire que Dieu ne vous aime plus? Ou allez-vous dire, comme l'apôtre ici, C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia! Celui qui est fermement convaincu que Dieu l'aime, celui-là, celle-là, sera toujours vainqueur. Alléluia! La parole de Dieu ici dit que nous sommes plus que vainqueurs. Pas seulement vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? D'après vous, ce plus, qu'est-ce que c'est? C'est le chrétien plus qui est là. Il y a des chrétiens moins, il y a des chrétiens minus et il y a des chrétiens plus. Les chrétiens minus, il y en a toujours. C'est les chrétiens mais toujours. Mais. Oui, tout est formidable, vous voyez, comme les espions, mais. La bénédiction de Dieu est toujours petite. Ah oui, oh. Vous croyez que Dieu a béni? Oui, pas grand-chose. La bénédiction de Dieu, il la voit comme ça. Et le diable, oh. Mais le diable. Les chrétiens minus ont un grand diable. Mais les chrétiens plus ont un petit diable vaincu et un Christ vainqueur. Nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le plus? Un jour, j'ai lu cette histoire dans un livre chrétien et qui m'a ouvert les yeux et qui explique bien ce plus que vainqueur. L'auteur chrétien disait, imaginez-vous un boxeur qui se prépare pour un combat futur. Il a dû se préparer durement pendant des mois. Il s'est préparé pour ce combat. Le jour du combat arrive, il entre sur le ring et il commence. Ah, il reçoit un coup. Il en reçoit un, il en donne 10. Ah, encore un autre. Mais il ne se laisse pas faire, il s'est préparé. Il en reçoit un. Mais il s'est dit, celui-là, ça y est maintenant, j'ai boxé pendant quelques instants avec lui, je connais son point faible maintenant. J'ai reçu quelques coups pour lui faire croire que... Hein, pour lui faire croire que je suis peut-être vaincu. Mais c'est au moment où... C'est au moment où l'ennemi pense qu'on est vaincu, qu'à ce moment-là, on peut faire quelque chose qui peut le détruire complètement. Au moment où il a reçu un petit coup, hein, le diable... c'est pas encore le diable. C'est pas encore l'image, là. C'est encore le boxeur. Il a donné un coup, alors il est tranquille, et puis d'un seul coup, l'autre avait préparé son coup, il a vu le point faible. Et PAM! L'autre tombe, KO! Il a gagné! Alors avant de rentrer chez lui, on lui donne un chèque. Il prend ce chèque, il met ça dans sa poche. Il a gagné, c'est normal, on lui donne un petit chèque quand même. Alors il rentre à la maison tout heureux. Chérie, ça y est. En peu de rounds, paf, ça y est, j'ai vu son point faible. Il m'a donné 2-3 coups, je lui ai fait croire que j'étais pas trop fort. Mais c'était pour le tester, pour voir où il était faible. Parce que dès le début, quand je l'ai vu boxer, j'ai dit, celui-là, il va pas faire long. Alors, ça y est, au bout de quelques rounds, paf, par terre, terminé, on n'en parle plus. Alors, le vainqueur, c'est moi. Et le boxeur sort le chèque et dit, voilà, ce chèque atteste que je suis vainqueur. Mais ce chèque-là, je ne vais pas le garder, je te le donne. Moi, j'ai été vainqueur, mais toi, avec ce chèque, tu es plus que vainqueur. Alléluia! Tu es plus que vainqueur! Lui a souffert, il a combattu. Mais c'est elle qui a le chèque! Il a combattu pour qui? Pour elle, pour sa femme! Lui a été vainqueur, mais elle est plus que vainqueur! Alléluia! C'est l'image de Jésus qui a combattu pour nous. Il a reçu des coups, c'est vrai. L'ennemi l'a mordu au talon, n'est-ce pas vrai? Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a écrasé la tête. Mais Jésus a finalement remporté la victoire. Mais pour qui a-t-il remporté la victoire? Pour lui? Non. Il vient vers nous et nous dit maintenant, mon enfant, j'ai remporté la victoire, non pas pour moi, mais c'est pour toi. Voilà le chèque maintenant. Moi, je suis vainqueur, mais toi maintenant, tu es plus que vainqueur. Alléluia! Lui, il a reçu les coups. Lui a reçu les coups. Lui a été rejeté. Lui a été battu. Christ a souffert pour nos péchés. Lui, le juste pour nous injustes. Mais il ne s'est pas laissé faire. Il est allé jusqu'au bout. Et lorsqu'il est mort sur la croix, il s'est écrié, tout est accompli. Autrement dit, tout est parfaitement parfait. J'ai accompli une œuvre qui ne sera jamais à refaire. Ce que j'ai fait, je l'ai parfaitement fait. À la croix du calvaire, l'ennemi a été vaincu éternellement. La croix est le chaos du diable. Alléluia. Alléluia. À la croix, le diable a été chaos, knockout. Amen. Il est chaos. Il est chaos. Et maintenant, il vous donne le chèque. Sa victoire est la vôtre. Voilà pourquoi nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia! Nous devons tout simplement le croire. Vous allez dire, mais c'est trop beau pour être vrai tout ça. Laissez-moi dire une chose, c'est beau et c'est vrai en même temps. Alléluia! Il nous faut tout simplement croire cela. Ce n'est pas toi qui dois souffrir. Ce n'est pas toi qui dois combattre. Les souffrances, Jésus les a portées. Le combat a déjà eu lieu. La victoire a déjà été remportée. Il y a des chrétiens qui sont là toute leur vie à essayer de remporter des victoires. Vous n'avez rien à remporter comme victoire. Sur tous les problèmes que vous avez, quels qu'ils soient, il n'y a pas de victoire à remporter. La victoire que vous recherchez a déjà été remportée à la croix il y a 2000 ans. Amen. Ce qu'il faut réaliser, c'est ce qui s'est passé à la croix. Seigneur, ah, je comprends maintenant. J'essaye d'avoir une victoire dans tel ou tel domaine. Mais il y a 2000 ans, tu as déjà remporté cette victoire. Tu l'as déjà remportée. Autrement dit, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Au lieu de demander la victoire, je dois confesser la victoire. Alléluia! Et louer le Seigneur pour la victoire qui a déjà été remportée il y a 2000 ans par notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia!
La première partie est terminée. Veuillez retourner la cassette.
Nous sommes plus que vainqueurs, ne l'oubliez pas, par celui qui nous a aimés. Il nous a aimés jusqu'à mourir pour nous. À combien plus forte raison maintenant il nous aime et il nous tiendra, il nous soutiendra et il ne nous abandonnera jamais. Amen. Le juste tombe 7 fois, mais chaque fois il se relève. Alléluia. Tu es tombé, mais ne te décourage pas. Relève-toi. Relève-toi. Dieu est avec toi. La victoire a déjà été remportée. Tu as perdu une bataille, mais tu ne perdras jamais la guerre. Alléluia. Amen. Tu as perdu des batailles, mais la guerre a déjà été remportée. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne te décourage pas. Ne pense pas que parce que tu as perdu quelques batailles, tu as perdu la guerre. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. La guerre a déjà été remportée. La guerre a déjà été remportée par notre Seigneur Jésus-Christ. Son amour a triomphé du malin. Et son amour triomphera de chacun d'entre nous aussi. Gloire au Seigneur. Celui qui confesse et qui va en chantant Jésus m'aime, Jésus m'aime, Jésus m'aime. Ça, c'est le chant de la victoire qui vous transportera de victoire en victoire. Alléluia. Et vous resterez debout alors que des multitudes tomberont à votre gauche, à votre droite. Mais vous resterez debout. Alléluia. Jésus m'aime, Jésus m'aime. Quelles que soient les circonstances, Jésus m'aime. Et c'est la vérité, mes amis. Et si vous croyez cela, l'esprit d'amour, c'est vraiment l'esprit de la victoire. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Vous le croyez? Alléluia. Alors vous allez faire quelque chose maintenant. On va le faire maintenant, on peut, j'ai pas besoin d'attendre trop longtemps. Vous allez vous saluer maintenant, et vous allez dire, je suis plus que vainqueur au nom de Jésus. Allez-y, allez-y. Pas je serai, pas je serai.
Prochainement, va descendre dans les eaux du baptême. Et notre sœur est cantatrice, est chanteuse d'opéra. Et donc, je vais demander qu'elle nous chante un cantique. Et j'aimerais lui demander de venir et de la présenter. Alléluia. Et ce soir, justement, elle va chanter à Lausanne. Elle est très heureuse de que vraiment le Seigneur puisse l'utiliser. Alléluia.
Gloire à Dieu.
On aurait peut-être lui demander de nous dire quelques mots de son expérience. Qu'est-ce qui l'a amené, comment elle a rencontré ce merveilleux sauveur?
Eh bien, je vais vous raconter un petit peu ma vie, le départ de ma carrière. Enfin, finalement, on est venu me chercher. Quelque chose est venu me chercher. J'habite à la montagne. Mes parents sont des gens qui cultivent la terre. Maintenant, ils ont un hôtel. Et c'est en Savoie, Notre-Dame de Bellecombe. Et pour moi, tout a commencé à l'âge de 15 ans. J'allais encore à l'école, et sur mon chemin, entre la maison de mes parents et l'école, il y avait 3-4 km à faire. Et j'ai ressenti un jour, j'ai eu comme une sorte d'appel, quelque chose m'a enveloppé. Et j'ai senti que quelque chose m'emportait, m'emmenait, quelque chose me parlait. Et j'étais dans des moments de grâce, parce que c'était sublime ces moments. Bon, je continuais quand même à rester avec mes parents. Et un jour, j'ai rencontré un couple qui aimait beaucoup le chant. Et parce qu'à ce moment-là, moi, je chantais des chansons dans les bals de montagne. Et tout s'est décidé à ce moment-là où j'ai commencé à prendre des vrais leçons de chant et de musique parce que je ne connaissais absolument rien. Il fallait tout apprendre, c'était sur le tas. Et puis, j'ai quitté ma famille. C'était une lourde épreuve. Très difficile, c'est la première fois que je quittais mes parents, bien sûr, pour me diriger dans le monde. Mais j'étais quand même sous la protection de quelqu'un.
Tu ne connaissais encore pas.
C'était que je ne connaissais pas encore. Ouais. Et j'ai traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, et de découragement parfois, parce que je me disais, où est-ce que je vais? Et je n'ai jamais perdu courage, parce que j'avais toujours cette petite étoile qui m'accompagnait. Ouais. Et voilà, j'ai fait mon expérience et avec tout cela, je viens de rencontrer le Seigneur vraiment qui est de plus en plus fort et j'ai une soif de lui, de sa parole. Et je lui ai donné finalement toute ma vie, toute ma carrière, c'est lui mon impresario. Et je voudrais qu'il m'utilise comme un instrument parce que c'est à travers lui qu'il m'a donné cette possibilité de transmettre des messages, parce que sur scène, il faut aussi jouer, il faut danser, il faut chanter. Et tout ça, pour moi, j'ai trop besoin de lui. Ça ne vient pas de moi, c'est pas moi qui le fabrique, je suis son instrument. Et j'aimerais beaucoup, par tout cela, par mon travail, et continuer à être avec lui,
chanter
et toucher, chanter pour lui, et toucher les gens du spectacle. Ouais. Ils ont beaucoup, beaucoup de besoin de tendresse, et de chaleur, et de communication.
Oui.
Voilà, alors je dis gloire à Dieu, et moi je ne veux plus oui. être sans lui.
Amen.
Je vais vivre en lui, je lui donne toute ma vie.
Gloire
à Dieu. Alléluia.
Alléluia.
Père, j'aime te contempler.
J'ai 6 enfants. Et ils sont tous au Seigneur. Il y en a qui font des détours. Et je trouvais que quand j'en avais 5, c'était assez. Parce que quand j'ai eu le 5e, quand il a eu 2 mois, j'attendais la 6e. Alors ça, c'était dur. 11 mois d'écart. J'ai dit, Seigneur, c'est trop, je suis fatiguée. Je ne suis pas une bonne maman. Tu as dû te tromper. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être faire quelque chose. Et puis j'ai dit, mais non, je peux me confier au Seigneur. Si je ne dois pas avoir cet enfant, il est bien capable de se débrouiller tout seul. Et le Seigneur m'a répondu, je te la donne parce que ça sera une consolation. Et après, quand elle est née, tous les orages se sont abattus sur mon foyer. Et j'ai pris cet enfant dans son berceau. Combien de fois je l'ai pris dans mes bras? Merci Seigneur, c'est une consolation. Et elle, c'est la seule qui est encore avec moi parce que j'ai les cheveux blancs. Hein. Et c'est une consolation. Et je dis ça pour au cas où il y aurait des mamans qui trouvent qu'elles ont assez d'enfants, qu'un de plus c'est beaucoup. Faites confiance au Seigneur, il compte les cheveux de notre tête, il est capable de compter les enfants, non? C'est pas pour ça que je suis venue, mais le Seigneur m'a demandé de dire ça, en plus. Je disais donc, Seigneur, moi je ne comprends pas les adolescents, j'ai dû élever 5 de mes 6 enfants toutes seules à l'âge de l'adolescence. C'est pas facile, peut-être encore plus des garçons. Et mon fils de 17 ans, les 2 plus jeunes ont reçu le baptême du Saint-Esprit dans les conventions compassion. Alléluia. Et celui de 17 ans, à 16 ans et demi, il a commencé à me haïr, il s'est mis à fumer. Il n'était pas avec le Seigneur et ça n'allait pas, il est parti. Il est parti vivre chez mon fils aîné, alors je suis quand même contente. Et je dis, Seigneur, je ne comprends pas les adolescents, comment ça se fait que moi, je ne sais pas faire. Quelques jours après, je vois 2 jeunes garçons, j'habite un HLM en face d'un CES. 2 jeunes garçons dans le hall qui étaient en train de fumer. Je rentre, je leur dis, mais vous êtes bien jeunes, vous savez que vous vous faites du mal. Il me dit, oui, on le sait, on vient de la visite médicale. Ah bon? Ben, j'ai dit, il faut vous arrêter. Oh, mais oh, ben, c'est-à-dire qu'on a l'habitude maintenant. Et puis, alors, je leur ai parlé de Jésus. Je leur ai dit, quel âge vous avez? 15 ans et 16 ans. Et je leur ai dit, vous voulez monter, venez boire une tasse de chocolat à la maison? Ils m'ont dit, non, on n'a pas le temps. Je leur ai descendu 2 feuillets de calendrier. Et plus tard, je les ai retrouvés dans la boîte aux lettres, pas les garçons, les feuillets de calendrier. Et j'ai dit, ah bon, ça ne les a pas intéressés. Et puis j'ai pris ces feuillets, c'était écrit, merci, on y pensera, Mario et Francis. J'ai dit, gloire à toi, Seigneur. Le jour après, ils sont sonnés. On voudrait parler avec vous de Jésus, ça nous intéresse. Bon, on a parlé 1 heure. 2 jours après, il y en a un des 2, il est venu avec 2 copains. Il a dit, voilà, j'ai des copains, voilà, ben, ils ont des problèmes. Ils voudraient parler avec vous. J'ai dit, mais Seigneur, où tu vas? 2 jours après, l'autre est venu avec 3 filles. J'ai dit, Seigneur, mais moi, je ne sais pas quoi faire avec les adolescents. C'est pour ça qu'ils me les envoient, parce que je suis incapable de les comprendre. Je croyais. Et jusqu'à maintenant, il y a 34 garçons et filles qui viennent plusieurs fois par semaine. Des fois, je suis en robe de chambre. Il y en avait l'autre jour, j'étais en robe de chambre, je n'étais pas peignée. Il y en avait 8 qui étaient là à 8h15 le matin. Il faut que je les prenne, les souliers pleins de boue. Ça ne fait rien. Quand ils viennent, des fois 4 fois par jour, je dis, Seigneur, et je voulais que vous priez pour ces jeunes. Amen. Parce que ce n'est pas de moi. Hein. Gloire à Dieu.
Leur cœur à Jésus.
Alléluia.
Et les eaux que tu
Mais avec Dieu, quand la parole de Dieu, nous l'écoutons, nous devons dire, Seigneur, j'écoute cette parole, pas seulement pour m'informer, mais j'écoute dans le but de la mettre en pratique. Amen. Est-ce que vous écoutez cet après-midi dans le but de dire, je veux mettre en pratique cette parole? Si les Israélites n'avaient pas écouté les paroles du prophète, même les plus beaux discours n'auraient rien fait pour les délivrer. Il fallait qu'ils passent à l'action. Amen. La parole de Dieu, beaucoup d'entre nous si nous la connaissons, mais bien peu nous essayons de la mettre en pratique, ou nous la mettons en pratique quand elle ne nous dérange pas. Nous sommes tous un peu des spécialistes. Ah, nous disons que nous obéissons bien, que nous mettons bien en pratique, mais seulement quand ça nous arrange. Quand ça nous dérange, il n'y a pas longtemps, je discutais avec une dame à la maison. Elle m'a dit, moi, c'est un peu comme ça, oui. Je prends un peu ce qui me plaît. Dans la Bible, et puis le reste, tout ce qui l'a dérangé en somme, elle mettait ça de côté. Mais je crains que beaucoup d'entre nous, il en soit ainsi. Mais Dieu veut que cette parole pénètre en nous et qu'elle produise un fruit. Alléluia! Ainsi parle l'Éternel. Plus nous serons simples dans ce domaine-là, plus nous verrons des miracles. Je lisais le témoignage, ces jours-ci, d'un ancien chanteur au Brésil. C'était un gars qui était le plus grand chanteur du Brésil. Et le pasteur racontait l'histoire de cet homme. Mais au bout d'un certain temps, cet homme a été malade. Il a eu la tuberculose. Et quand il a eu la tuberculose, naturellement, il est resté 6 semaines à l'hôpital, étendu, mourant. Et là, plus personne n'est venu le voir, ni sa famille, ni les autorités, parce qu'il avait chanté devant le président du Brésil, devant des foules de 100 000, 200 000. Il disait, je chantais devant ces auditoires, on m'applaudissait et on disait, tu es le plus grand, tu es le plus grand. Mais quand je rentrais dans ma chambre d'hôtel, il me dit, ma chambre était comme une prison et j'avais envie de me suicider. Et quand il a eu sa tuberculose, personne n'est venu le voir, abandonné de tous. Il était mourant. Et au bout de 6 semaines, il y a eu dans cet hôpital la visite d'une dame de 75 ans. C'était une femme qui avait le ministère de prier pour les malades. Et quand elle est passée devant la chambre de ce grand chanteur, elle a reconnu le chanteur qui était couché. Elle s'est dit, mais c'est pas possible, c'est lui. Parce qu'il paraît qu'il faisait plus de 100 kilos avant. Et là, il en faisait plus que 45. Il était méconnaissable. Elle dit, mais c'est pas possible que ce soit lui. Elle y va. Effectivement, c'était bien lui. Alors, elle lui a posé la question. Il était presque inconscient. Mais elle lui a tapé un peu sur le bras et il s'est réveillé. Elle lui a dit, êtes-vous prêt à mourir? Et l'autre a dit, mais non, je ne suis pas prêt. Eh bien, vu l'état dans lequel vous êtes, il serait temps que vous cherchiez comment savoir mourir et comment être en règle avec Dieu. Et l'autre a dit, je veux bien. Et alors, cette dame a prié pour lui. Lui, il était sans force, elle a prié de tout son cœur. Et il semble que pendant la prière, cet homme buvait toutes les paroles qu'il entendait. Et après la prière, il y a eu comme une lumière sur son visage. Elle a su qu'il avait accepté Christ dans sa vie. Et puis après, la femme lui a dit, mon cher ami, mais non seulement Jésus sauve, mais Jésus guérit aussi. Est-ce que vous le croyez? Et le chanteur dit, je crois tout ce que vous me dites. Alors elle a dit, j'ai prié pour toi. Elle a imposé les mains, une simple prière de foi. Et à peine avait-elle terminé sa prière de foi, que le chanteur, boum, s'est levé. Et a sauté, il est allé dans les vestiaires pour se changer et il a quitté l'hôpital pour ne plus jamais revenir. Alléluia! Gloire à Dieu! Dieu est fidèle à sa parole. Je ferai tout ce que tu diras. Je crois tout ce que tu dis, voyez-vous? Il en est arrivé à ce point-là. Pourquoi? Ceci pour vous dire que, mes amis, la parole de Dieu est vivante et puissante. Ce qu'il nous faut aujourd'hui plus que jamais, c'est nous nourrir de cette parole. Amen. Quand la parole de Dieu dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, alors la parole de Dieu veut bien dire ce qu'elle dit. Amen. Si tu es en Christ, il n'y a plus de condamnation pour toi. Amen. vous dites, mais c'est pas possible. Ah oui, comment? Je suis en Christ et puis moi je me sens condamné. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que tu ne crois pas la parole de Dieu. Si tu es en Christ, alors il n'y a plus de condamnation pour toi. Cela ne veut pas dire que tu es parfait. Cela ne veut pas dire que tu n'as pas de problème. Mais cela veut dire que en Christ, il n'y a plus de condamnation. Pourquoi? Parce que Christ a été condamné à ta place lorsqu'il est mort sur le bois de la croix. Amen. Il a payé ta dette. Ta dette est payée. Christ a été condamné afin que toi, tu sois libéré. L'œuvre de libération est accomplie. Tu es libre. Tu ne seras plus condamné parce que Christ a été condamné à ta place, si tu le crois. Mais si tu ne le crois pas, alors le salaire du péché, c'est la mort. Tu dois porter le salaire de ton péché. Tu dois être condamné si tu ne crois pas cela. Mais si tu le crois, quelqu'un est mort à ta place. Le Saint est mort à ta place. Le Fils de Dieu est mort à ta place. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Quelle parole extraordinaire. Utilisons cette parole comme une épée pour détruire tous les mensonges du diable. Amen. Gloire à Dieu. Une autre parole que j'aime beaucoup aussi. 1 Jean chapitre 4, verset 4. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Celui qui est en toi, maintenant que Christ est en toi, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne l'oublie pas. Amen. Alléluia. Ne l'oublie pas. Je lisais le témoignage encore de cette chinoise qui est venue rendre témoignage ici en France, en Suisse, un peu partout. À un moment donné, dans son témoignage, elle dit elle-même qu'elle a été condamnée à être fusillée avec des autres. Et lorsqu'elle a été fusillée, les autres sont tombés morts. Mais elle, elle est restée debout. Les balles sont tombées comme cela. Elle, elle est restée debout. Amen. Alléluia. Dieu est merveilleux. Dieu peut faire de grandes choses. Amen. Croyons-le. Gloire à toi, Seigneur. Je lisais encore le témoignage d'un autre évangéliste. C'était au Mexique. Il a pris un autostoppeur. Et au moment où l'autostoppeur est rentré dans sa voiture, il a sorti le revolver. Il a dit maintenant, tu vas jusque là-bas et tu me donnes tout ton argent, tout ce que tu as. Il avait des instruments de sonorisation, tout cela. Ils allaient pour faire une mission quelque part. Il y avait des objets de grande valeur. Et il lui dit, tu vas me donner tout ça. Et l'autre lui dit, comment? Je te donne rien du tout, je suis serviteur de Dieu. Et tu ne peux pas me toucher. Comment? Je ne peux pas toucher? Celui qui est là, ce qui est dans ton arme, n'est pas plus fort que ce qui est en moi. L'autre, jamais il avait entendu parler comme ça. Ah non? Je suis serviteur de Dieu et tu ne peux pas me toucher. L'autre, il s'attendait pas à ça. Il était décontenancé. Il a été bousculé. C'est la première fois que j'entends quelque chose comme ça. Tu ne peux pas me toucher. Enfin, ils ont filé pendant quelques kilomètres comme cela. Je vous raccourcis un peu l'histoire. Mais, finalement, l'autre, à un moment donné, il a dit, sors de la voiture. Enlève ta veste. Enlève ton pantalon. Il a obéi. Et à un moment donné, il a voulu tirer sur lui. Au moment où il a tiré sur lui, rien n'est parti. Et l'autre lui disait, tu ne peux pas me toucher, je suis un serviteur de Dieu. L'autre, finalement, il était complètement déboussolé. Alors, il est revenu, il a dit, mais qui es-tu, toi? Et c'est là qu'il lui a parlé du Seigneur. Et finalement, il lui a tout redonné. Et il l'a emmené chez lui. Le missionnaire a emmené l'autostoppeur chez lui. Et après, il a pu continuer sa route. Amen. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je vais dire, mais oh, comment ça? Ça, c'est extraordinaire. Mais oui, notre Dieu est grand. Cela ne veut pas dire que certains peuvent mourir martyrs. Je suis d'accord avec vous, n'est-ce pas vrai? La Bible en parle aussi, n'est-ce pas vrai? Mais il y a l'autre côté de la médaille aussi. Il y a ce côté-là. Et nous devons croire en ces choses. Amen. Alléluia. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache à tout danger. Croyons-le, mes amis. L'ange de l'Éternel campe autour de toi et t'arrache à tout danger. Cesse de dire, oh, ça y est, le diable m'attaque, ça y est, je vais être malade, ça y est, je vais perdre mes enfants, je vais perdre ma femme, je vais perdre ceci, je vais perdre... Ce que tu confesses, tu l'auras. Tu es lié par les paroles de ta bouche. Dieu est fidèle à sa parole. confesse cette parole. Alléluia. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Est-ce que tu as déjà confessé que tu es plus que vainqueur? Mais il y en a qui n'ont jamais osé. Des chrétiens qui n'ont jamais osé confesser qu'ils sont vainqueurs. Dites-moi un petit peu. Ce que vous ne confessez pas, vous ne le saurez jamais. Si vous n'avez jamais confessé que vous êtes vainqueur, vous ne le saurez jamais. Avez-vous pensé à cela? Ce que vous ne confessez pas, vous ne l'aurez pas. Combien d'entre nous, nous restons sur nos échecs? Mon ami, si tu as confessé tes fautes, le sang de Christ te purifie de tout péché. Tu peux passer de cette année dans l'autre, libre, alléluia, vainqueur, avec l'autorité de Jésus dans ta vie. Amen. Gloire à Dieu. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Un jour, j'ai dû prendre Dieu au mot, moi aussi. Jamais j'aurais pensé faire ce que je fais aujourd'hui. Quand j'entendais, moi, je voyais des grands évangélistes, des hommes qui priaient pour les malades, chassaient des démons, faisaient ceci et cela. Je me disais, toi, petit Sam, jamais tu es toi d'abord. Jamais tu pourras faire quelque chose comme ça. Jamais. Et puis alors, j'attendais même pas que les autres me découragent, je me décourageais moi-même. Il y en a, vous savez, vous n'avez même pas besoin de les décourager. Ils sont champions pour se décourager eux-mêmes. Vous n'avez même pas besoin de les décourager, ils se découragent tout seuls. Mais le jour est venu où j'ai dû dire, Seigneur, il n'y a pas d'histoire, ce que tu fais avec les autres, tu peux le faire avec moi. Ils croient la même parole. C'est ta parole qu'ils croient, et moi je crois aussi cette parole. Et je veux la mettre en pratique. Et j'ai vu que Dieu est fidèle. Amen. Tout n'est pas parfait, c'est vrai. Mais Dieu est fidèle. Amen. Si tout allait comme sur des roulettes, si tout allait parfaitement, mes amis, on serait imbu d'orgueil. Et on ne pourrait même plus nous parler. Dieu permet certains échecs pour que nous réalisions que nous sommes des hommes et qu'à Dieu seul appartient la gloire. Amen. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Mon ami, la parole de Dieu dans ta bouche peut faire des miracles. La parole de Dieu dans ta vie peut détruire les plans du diable. Relève-toi, ainsi parle l'Éternel, il est écrit, méditons la parole, écoutons la parole, voilà le but de ces conférences, de ces retraites, de ces conventions, c'est de vous annoncer la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dit, et Dieu confirmait sa parole par les miracles qui l'accompagnent, gloire à Dieu, et Dieu va confirmer cette parole pendant ce week-end. Nous nous attendons à ce que Dieu fasse des miracles, et il le fera. Amen. Gloire au Seigneur. Il ne confirme pas ma parole, moi je n'ai rien du tout, mais il confirme sa parole. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Allons un peu plus vite maintenant. Troisième mot d'ordre. Ne craignez point, mais soyez courageux. Voilà un autre mot d'ordre dans le combat spirituel. Ne craignez point. Avez-vous remarqué à combien de reprises le prophète leur dit cela ? Au verset 15 déjà, « Ne craignez point, ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Ensuite, il est dit aussi un peu plus loin, au verset 17, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, demain sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Un troisième mot d'ordre, « Ne craignez pas, mais soyez courageux. » La crainte est quelque chose qui nous paralyse. Et vous savez bien souvent pourquoi on est dans la crainte? Je vais vous dire pourquoi. Je lisais encore le petit témoignage d'un monsieur qui, un jour, un paysan, allant dans ses champs, tout à coup, il entend un bruit un peu insolite. Comme un serpent qui sifflait. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Et effectivement, un peu plus loin, il a aperçu un serpent qui sifflait et qui avançait. Et un peu à quelques mètres devant, il y avait une souris qui était littéralement hypnotisée par le serpent. Comme ça. La souris pouvait s'en aller, mais elle était là, complètement paralysée, hypnotisée par le serpent qui avançait. Et le paysan voulait faire quelque chose, et tout à coup, il a voulu faire quelque chose, il a sorti son mouchoir, il a fait comme ça, à la souris. Et tout à coup, la souris, au lieu de regarder le serpent, a regardé le mouchoir. En regardant le mouchoir, la crainte a disparu, hop, la souris a fichu. Elle est partie. Tant que la souris regardait au serpent, c'était fini pour elle. Ne vous effrayez point. Josaphat disait, la multitude est nombreuse, mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Voilà le secret de la victoire. Nos yeux sont sur toi. Ne regardez plus en vous, ni autour de vous, ni ce que l'ennemi fait, mais regardez au Seigneur. Sois courageux. Avez-vous remarqué ce qu'il est dit? Il n'est pas dit, ne craignez point, ne vous effrayez point, et allez tous dans vos tentes, et l'Éternel va combattre pour vous. Est-ce qu'il est dit comme cela? Non, non. Il est dit, demain, sortez à leur rencontre. Voyez-vous? Dieu ne voulait pas leur dire, ne craignez point, et puis restez à votre place. Il leur dit, ne craignez point, mais vous devez aller. Dieu remporte des victoires au travers de nos vies. Combien de fois nous disons, oh Dieu fait quelque chose, et nous attendons que Dieu fasse tout, et nous ne faisons rien du tout. Vous risquez d'attendre longtemps. Non seulement tu dois détourner tes yeux de l'ennemi, comme cette petite souris, mais une fois que tu as les yeux fixés sur Jésus, alors tu dois aller attaquer l'ennemi en ayant les regards sur Jésus. Amen. Alléluia. Et ça, c'est tout autre chose. Et allez à leur rencontre. Allez les attaquer. Mais le regard, la crainte avait disparu. Pourquoi? Parce qu'ils ne regardaient plus à l'ennemi. Ils regardaient au Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Allez, ne cachez pas, ne vous cachez pas, ne fuyez pas. Beaucoup d'entre nous, nous fuyons nos problèmes, nos difficultés. Nous fuyons constamment. Nous nous cachons constamment. Nous enterrons nos problèmes. Nous ne voulons pas faire face à nos difficultés. Nous les enterrons et nous les retrouvons après 15 mois plus loin, 15 jours plus loin. Nous les retrouvons. Ce qu'il faut faire, c'est affronter les difficultés avec la force de l'Éternel. Amen. Et vous verrez que à peine êtes-vous arrivé à la distance de l'ennemi, que déjà l'ennemi est vaincu. Alléluia. Et vous contemplerez la victoire de l'Éternel. Amen. Mais vous ne devez pas fuir. Au nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, allez de l'avant. Le Seigneur vous aidera. Ne fuyez point vos difficultés. Allez de l'avant. Allez droit de l'avant. Et Dieu vous aidera. Dieu vous donnera la sagesse, la force. Mais ne fuyez point. Gloire à Dieu. Amen. Et je termine. Quatrième mot d'ordre. Gardez un esprit de louange, même quand tout est contre Amen. Je répète, gardez un esprit de louange, même quand tout est contre vous. Avez-vous remarqué comment ils sont allés au combat après? Je vous exhorte à lire ce chapitre 20 là. Il est merveilleux. Il est merveilleux ce chapitre 20 de 2 Chroniques. Alors après, il est dit ici, au verset 19, verset 18, Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda, les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Les Lévites, d'entre les fils de Kéatite et d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà comment déjà nous devons louer Dieu. À haute voix et d'une forte voix. Ah, vous dites, mais moi, c'est toujours silencieux, c'est toujours calme. Bien sûr, il y a des moments de calme, mais parfois, quand l'ennemi est là, hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand l'ennemi est là, que c'est une question de vie ou de mort, alors je vous assure que vous changez d'attitude. Les petites prières du bout des lèvres, ça, vous voyez que ça ne fait rien du tout. L'ennemi ne craint pas ces prières du bout des lèvres, ces louanges du bout des lèvres. Tout ça, l'ennemi se moque de cela. Mais la louange ici, c'était d'une voix forte et à haute voix. Ils y ont mis leur cœur. Amen. Mes amis, quand nous louons, quand vous louez, faites-le de tout votre cœur et vous verrez des choses se passer dans votre propre vie. Amen. N'ayez pas peur d'élever votre voix. Il y a des moments où nous devons crier la victoire. Amen. Il y a des moments de calme, de silence, entièrement d'accord avec vous. Mais quand l'ennemi est là, quand la difficulté est là, quand nous sentons que c'est comme un étau qui se resserre sur nous, mes amis, ce ne sont plus les prières timides, les prières tièdes, les prières silencieuses qui remportent des victoires. C'est la prière victorieuse. C'est la prière à haute voix, la louange à haute voix. Et alors là, il se passe quelque chose. Amen. Et qu'est-ce qu'ils ont dit aussi? Non seulement de tout leur cœur, ils ont loué l'Éternel, mais ils ont dit quelque chose. Au verset 21, il est dit, puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Écoutez-moi bien. Réfléchissez à ce qu'ils disent là. L'ennemi est là. Dans quelques minutes, ils vont être détruits. En quelques minutes, c'est la destruction totale, si Dieu ne fait pas miracle. Et voilà ce qu'ils disent. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. Ils confessent la miséricorde de Dieu, alors que les seules pensées qui nous viennent à l'esprit à ce moment-là, c'est « Seigneur, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible, tu nous as abandonnés. Où est ton amour? Mais où est ton amour? Où est ta miséricorde? Les circonstances prouvent que tu ne nous aimes pas, que tu nous as abandonnés. » Ce serait la dernière chose qu'on aurait dite, n'est-ce pas vrai? Louer sa miséricorde, alors que nous pensons que l'ennemi va nous détruire. Mais là, c'est le miracle de la louange. Lorsqu'on regarde à Dieu, alors, tout change, la vision du combat spirituel change. Nous réalisons combien Dieu est près de nous, combien Dieu est miséricordieux, et qu'il va intervenir. Amen. Alléluia. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Regardez-moi ça, c'est une parole de folie. C'est une folie de dire cela. Et beaucoup d'entre nous, nous n'osons pas dire ces paroles. Nous n'osons pas dire, Seigneur, tu es bon pour moi. Alors que derrière notre petite tête, nous pensons, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, tu ne m'aimes plus. Seigneur, si tu m'aimais encore, je ne serais pas dans une telle situation. Nous n'osons pas dire qu'il est miséricordieux. Parce que nous jugeons Dieu d'après les circonstances. Nous jugeons Dieu d'après les œuvres du malin. Nous jugeons les œuvres de Dieu d'après ce que nous voyons. Mais mon ami, Dieu est plus grand que ce que nous voyons. Dieu est plus grand que ce que l'ennemi peut faire. Dieu est plus grand que les circonstances. Si tu sais voir sa miséricorde, si tu sais louer sa miséricorde t'atteindra, alléluia, et tu seras délivré. Amen. Gloire à Dieu. Loué soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Alléluia, car sa miséricorde durera toujours. Et ils l'ont expérimenté. Et ils l'ont expérimenté. Mes amis, parfois louer Dieu, louer sa bonté, son amour, c'est difficile. Quand nos circonstances ne sont pas favorables. On vous dit de louer Dieu et vous avez eu des difficultés. Vous êtes dans de grands problèmes. Vous pensez que Dieu vous a abandonné. Vous pensez que vous êtes seul. Et on vous dit ici, louez Dieu. Mais alors vous dites, mais c'est une folie, voyons. C'est pas logique ce que vous me demandez. Mais c'est pas possible. Comment est-ce que je peux louer Dieu? Quand tout est contre moi. Quand j'ai pas envie de le faire. Quand tous m'ont abandonné. Quand je suis près de perdre mon travail. Près de perdre ma femme ou mes enfants. Comment perdre ma santé? Comment puis-je encore louer Dieu? C'est là que la louange retrouve toute sa puissance et toute sa valeur. Amen. Gloire à Dieu. Dieu est bon, même si vous croyez qu'il n'est pas bon à votre égard. Dieu vous aime, même si vous croyez qu'il ne vous aime pas. Dieu vous aime encore. Dieu ne vous a jamais abandonné, même si vous croyez qu'il vous a abandonné. Ce n'est pas vrai. Dieu est miséricordieux. Il veut te rencontrer. Mais il attend ton acte de foi, ta louange. Alléluia. Amen. Loue ton Dieu. Loue-le. Loue-le pour sa miséricorde. Ils l'ont loué en partant au combat. Et qu'est-ce qu'il est dit au verset 22? Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la maison de Séir qui étaient venus contre Juda. Et ils furent battus. Quel miracle! Amen! Et ils furent battus. Non seulement battus, mais ils se battèrent les uns les autres. Ils se sont entretués. Voyez-vous, je termine maintenant. Comment expliquer que, simplement par la louange, ces ennemis se sont non seulement tués les ennemis, mais ils se sont entretués? Qu'est-ce qui s'est passé? Il se passe ce qui se passe lorsqu'on loue Dieu. Quand on loue l'Éternel, la louange projette la panique
dans le camp de l'ennemi. La panique. L'ennemi est allergique à la louange. Il ne peut pas supporter la louange. C'est pourquoi le psalmiste disait, je m'écris, « Loué soit l'Éternel et je suis délivré de tous mes ennemis. » Que Dieu bénisse sa parole et que nous gardions ses paroles dans notre cœur pour la gloire de son nom. Amen.